J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait son tel bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est là.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Bienvenue sur Radio Grand Air, on se retrouve pour une nouvelle semaine cinéma Entr'Actes, l'émission qui donne envie de se faire plaisir et aller au cinéma de la Brèche. Avec nous Pascal.
Ben absolument, mais oui, il faut aller au cinéma, c'est important.
Comment vas-tu Pascal ?
Bonjour Christophe, ça va super bien.
Bon mais parfait.
Super bien, oui.
C'est le printemps du cinéma.
C'est le printemps qui finit.
Qui finit déjà.
Il a fini hier, enfin, il a fini mardi.
Ouais.
Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 98 d'Entr'Actes.
Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Alors, je disais le printemps du cinéma, c'était un petit peu un clin d'œil à l'opération qui vient de s'achever. Mais comme nous sommes toujours évidemment au printemps, eh bien, vous pouvez vous faire plaisir et prolonger eh bien, votre plaisir du cinéma au cinéma.
On peut passer son printemps au cinéma aussi.
On pourrait le faire comme ça, ouais.
Oui.
Alors, cette semaine, le sommaire de l'émission, quelques sorties à ne pas rater.
Alors, je vous ai sélectionné 6 films. On va parler de l'avant-première que nous aurons le 1er avril, du Cobu Passe au Vert. On va parler aussi du dernier film d'Édouard Bergeron. On va parler d'écologie, on va parler de lutte écologique avec La Promesse Verte. Mmh. On va parler aussi du dernier film de Stéphane Brisé, Hors Saison, ainsi que du dernier film aussi du premier film de Léa Todorov, La Nouvelle Femme. Alors on va parler d'un personnage assez emblématique, on va dire du début du siècle dernier et de la fin du 19e siècle. On va parler de Maria Montessori. Là, je vous ai fait un petit papier historique sur elle quand même.
Non, c'est toujours
pour
intéressant.
Un petit peu,
ouais.
Oui, pour connaître un petit peu son parcours. C'est quelqu'un qui avait un parcours un peu atypique. Hein. C'est une femme qui a joué des coudes dans une société essentiellement masculine. Hein. Mm-hmm. Et voilà, donc on va en reparler tout à l'heure. On va parler aussi d'un film coréen. The Host. Ça, c'est pour les films du patrimoine. Hein. Le ciné-mémoire.
D'accord.
On va parler d'un monstre. Un film à monstre. Qui sort de la rivière, qui mange les gens et tout.
Mmh, c'est pas joli, ouais.
Et on va parler aussi du dernier film de Maxime Govard et Romain Chouaille, Heureux Gagnant. L'horreur ou le bonheur? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que le loto fait le bonheur? Ça, c'est une bonne question. Hein.
Mmh, c'est un beau sujet,
ouais,
ça.
Ouais, tout le monde en rêve, tout le monde voit les tirages à la télé, en se disant, si je gagnais ça, si je gagnais 3 millions d'euros, qu'est-ce que je ferais? Ben, il y en a un mec qui se plante la gueule, faut le savoir.
Ah oui,
on en reparlera tout à l'heure.
Ça existait aussi, pas loin de chez nous, là.
Ah bon?
Ah oui, oui. Malheureusement, il a tout perdu.
Il a tout perdu.
Oui.
Mais les chiffres sont assez effrayants là-dessus. C'est marrant.
Faut être accompagné.
Hein. Comment tu peux zapper un truc pareil? Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Et dans le cadre de la sortie donc, du film du Cobu, j'ai choisi comme personnage de la semaine donc Elie Semoun.
Voilà, qu'on va retrouver effectivement sur les écrans cette semaine avec Gérard Jugnot. Allez, c'est parti donc pour cette semaine cinéma, une production française, la suite des aventures du Cobu.
Alors du Cobu Passe au Vert, oui, effectivement, on aura une avant-première le lundi 1er avril à 14h, c'est pas une blague.
D'accord.
Parce que c'est le jour du blague, tu sais, donc là ouais. C'est pas une blague du tout. Hein. Donc c'est avant-première, donc lundi 1er avril à 14h à La Brèche. Donc c'est un film français, une comédie d'1h30 de Elie Semoun. Donc c'est lui qui a réalisé le film, absolument.
D'accord.
Absolument. Donc comme acteur, on va retrouver Elie Semoun, Émilie Caen, Frédéric Bell, Loïc Legendre, Caroline Anglade, Gérard Jugnot, Damien Powels et Louise Riguidel-Huon. Donc c'est la nouvelle rentrée à Saint-Potage et cette année, Ducobu a une idée de génie. prendre une année sabbatique pour sauver la planète, mais surtout pour sécher l'école. Mais la touche ne compte pas le laisser faire si facilement. Tricheur et écolo, c'est pas du gâteau.
Voilà, 30
points.
J'aime bien le rythme.
Donc ça sera donc à découvrir donc à La Brèche. Et je vous rappelle la date quand même, l'avant-première, lundi 1er avril à 14h.
Et ce n'est pas un poisson, tu l'as dit.
Oui. En plus, c'est le jour, c'est férié.
Bah oui.
Ça sera férié lundi.
Formidable.
Pour les chanceux, ça sera férié.
Formidable.
Voilà.
Donc on va passer un petit moment sympa.
Oui, c'est une comédie familiale. Comédie familiale. Après, vous le connaissez tous, du coup, en fait, tous ceux qui ont fréquenté les salles un petit peu. Voilà, je pense que ce film-là fonctionnera bien. C'est pour se détendre. Hein.
On va écouter un extrait. Voilà. On se retrouve juste après.
De vacances pour la triche.
Bonjour monsieur qui triche.
Ducobu est de retour et plus équipé que jamais.
Je vais recevoir plein de nouveautés.
Un ours en plus avec intelligence artificielle.
Ducobu, pas de jouets en classe.
Gustave Matos, c'est le pire
enfant. La planète va mal. On doit changer nos habitudes. Cette année, je souhaite que notre famille réduise son bilan carbone.
En pétant moins.
Ils ont rajouté l'odeur, on dirait un vrai prout.
Cette année,
Greta Greenberg, elle n'a pas été à l'école pendant un an pour défendre la planète.
Un an sans école, le kiff.
Pour ne pas travailler.
Ouvrez mon cahier.
Je refuse d'écrire sur un arbre mort.
Pardon.
Ducobu a raison.
Rébellion.
Lui aussi, il est prêt à sauver le monde.
T'es vraiment un génie, Ducobu.
Je voudrais faire de Saint-Potage une école verte et on vivra en harmonie avec la nature.
Exaspération.
Cette année, pas de vagues.
Il nettoie la promenade qui longe la plage avec un spirit.
Arrête, t'es pas sincère. Tout ce que tu veux, c'est glander.
Il va falloir frapper fort, monsieur le directeur. Et tu es dans l'œuvre cette rébellion. Répression et extermination.
Un nouveau parking.
Vous dégagez tout et vous bétonnez.
On peut pas les laisser faire ça.
Fort volontaire.
Ducobu passe au vert.
Je veux que vous fassiez un exposé sur la personne que vous admirez le plus au monde.
Vous choisiriez qui, vous, monsieur ?
Bon.
Le 3 avril au cinéma.
Voilà, on va rigoler, on va se détendre. Et ça va faire plaisir de retrouver, évidemment, le duo Elie Semoun et Gérard Jugnot dans cette nouvelle aventure. On va parler d'un autre rendez-vous, La Promesse Verte.
Voilà, un sujet un peu plus grave quand même.
Voilà, intéressant et aussi passionnant, avec une histoire aussi passionnante.
Absolument. Alors, c'est le dernier film d'Edouard Bergeron, un film franco-belge de 2h04, qui est un drame. Hein. Au niveau des acteurs, on va retrouver Alexandra Lamy, Félix Moati, Sofiane Kames, Julie Chen, Antoine Bertrand, David Chin, Adam Fitzgerald et Philippe Torreton. Philippe Torreton, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, franchement.
J'essaie de réfléchir un petit peu lorsqu'on l'avait vu, évidemment, dans certains films, mais je n'ai plus en tête ses dernières apparitions.
La dernière, je ne sais pas. Moi, je m'en souviens de lui quand il a fait Capitaine Conan.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et c'était il y a très longtemps. Alors, pour tenter de sauver son fils, Martin, injustement condamné à mort en Indonésie, Carole se lance dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. Et oui, l'huile de palme.
Ah oui.
La pire invention qui soit. Mmh. Alors, la naissance du projet. Alors, lors du tournage de Au nom de la Terre, qui était très bon, hein, celui-ci, entre parenthèses, Édouard Bergeron est tombé sur un article de presse concernant le blocage de la raffinerie Total de la MED par des agriculteurs. Il protestait contre l'importation d'huile de palme d'Asie du Sud-Est destinée à la production des biocarburants. Et comme il nous dit, les agriculteurs français avaient été incités par le gouvernement via des primes à cultiver du palme pour produire du biocarburant et les importations d'huile de palme allaient faire baisser les cours de marché de l'huile française. La colère de ces agriculteurs qui se sentaient floués a résonné en moi. Car au-delà du faible prix de production de l'huile de palme, se pose surtout la question de ce qui se cache derrière la promesse des carburants verts, qui ne propose en faux rien de durable pour la planète ni pour les humains. Ce miracle écologique repose sur une des cultures les plus écocides de la planète. Produire cette huile à l'autre bout du monde s'avère un désastre écologique. Elle implique une déforestation massive, terrible pour l'écosystème local et mondial. La forêt primaire est le poumon de notre planète et un rempart contre le réchauffement climatique. Elle nécessite donc l'utilisation massive d'engrais chimiques et de désherbants pour faire pousser les palmiers, sans oublier la quantité de fuel lourd nécessaire au transport de l'huile par cargo. C'est aussi un désastre humain pour les peuples autochtones des forêts tropicales qui se retrouvent expropriés de leurs terres ancestrales. Mais l'huile de palme est une incroyable manne financière pour les industriels, aussi bien pour les pays producteurs que pour les importateurs. Le marché est tellement important que la plupart des dirigeants politiques ferment les yeux sur ses conséquences. L'huile de palme en Asie du Sud-Est représente en effet une grosse partie du PIB des pays producteurs et génère un grand nombre d'emplois. Et pour le consommateur, qu'importe qu'à l'autre bout de la planète on abatte des forêts primaires à la biodiversité inestimable qui, soit-disant en passant, ne repousseront jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Hein. Une forêt primaire ne repousse pas. T'auras beau replanter des arbres, c'est terminé. Personne n'est magicien et l'équilibre est vraiment rompu. Hein. Donc à partir de là, j'ai imaginé l'histoire de Carole, une mère confrontée à l'injustice qui s'est abattue sur son fils et qui va se battre avec courage pour le sauver. Un thriller écologique qui dénonce en filigrane l'hypocrisie des biocarburants se rappelle le metteur en scène. Alors, évidemment, on va retrouver Alexandra Lamy, donc, qui a été une évidence pour Édouard Bergeron dans le rôle de Carole. Et comme il nous dit, d'entrée, elle a refusé tout maquillage pour être au plus près de la vérité. Une femme qui vit les épreuves que traverse Carole se fiche bien de son apparence. C'est courageux et je ne peux que le remercier. Au final, elle apporte un souffle, une intensité et une crédibilité incroyable au personnage, confie le réalisateur en poursuivant au sujet de l'interprète, donc de Martin. Le comédien auquel je pensais au départ pour le personnage de Martin n'était pas disponible. Je cherchais donc mon acteur et un beau matin, Félix m'est apparu de manière inattendue. Avec Luc Golfin, co-auteur et monteur du film, nous avions rendez-vous avec notre producteur Christophe Rossignon. Nous discutions à la machine à café chez Nord-Ouest, la production, quand Martin est entré. Et c'était Félix Moati. Il m'a tout de suite dit « Banco ». Donc côté personnage secondaire, nous retrouvons Sophia Kames dans le rôle de l'attachée de l'ambassade de France en Indonésie qui va soutenir Carole dans ses démarches. Julie Chen dans celui donc, de l'activiste Nila et Stéphane Pezzera dans celui du lobbyiste décomplexé. Fatou Ndiaye dans celui d'une députée écolo ou encore le Canadien Antoine Bertrand dans celui du responsable humanitaire. Une fois de plus, Gigi Akoka, avec qui j'avais déjà travaillé sur Au nom de la Terre, m'a apporté ce casting extraordinaire, sans oublier ces deux jours passés avec Philippe Torreton qui avait un gros pavé de textes à jouer. On a tous eu droit à une masterclass, précise Édouard Bergeron. Donc si le film n'est pas une histoire vraie, Édouard Bergeron voulait recréer les conditions de détention en Indonésie, de manière réaliste. Alors, il faut savoir qu'en Indonésie, ça rigole pas au niveau de la justice. Hein.
Ah oui.
Oui, c'est la peine de mort hein, si tu fais trop d'écart. Hein. Il y a eu des affaires, Serge Atlaoui, ça te dit rien ? Qui était dans le couloir de la mort, qui a failli se faire exécuter. Et 24 heures avant, le président Hollande qui lui a sauvé la vie.
D'accord, ouais, je m'en rappelle. Ouais.
C'était une grosse affaire, ça. Et, donc ça rigole pas du tout. Donc pour ceux, il s'est documenté sur le cas de Français emprisonnés et ou condamnés à mort dans ce pays, donc, comme Michael Blanc. C'est le dernier qui a été chopé avec de la drogue, ou Serge Atlaoui qui lui était parti comme soudeur dans une usine d'acrylique. À la base c'était ça, l'affaire Atlaoui. Notre histoire ne s'inspire en aucun cas de la leur, mais elle nous a permis de comprendre comment se déroulait ce type de procès et à quoi ressemblait le couloir de la mort. Toujours par souci de réalisme, nous avons tenu à tourner dans des vraies cellules, de vrais parloirs, un vrai tribunal également, il faisait au moins 50 degrés, c'était oppressant. Et c'est vrai que l'Asie du Sud-Est, il fait super chaud. La saison chaude, c'est intenable. Et ce qui est vraiment intenable, en fait, c'est qu'au Vietnam, par exemple, c'est le taux d'humidité.
Ah oui.
Le taux d'humidité est tellement énorme que tu bois comme une cafetière.
Hein. Oui, et puis en plus, on a du mal à respirer. Enfin,
absolument.
C'est oppressant, ouais.
Compte tenu du sujet du film, il a été impossible pour Édouard Bergeron de tourner en Indonésie, sauf les plans aériens de la forêt primaire. L'essentiel de La Promesse Verte a ainsi été conçu en Thaïlande, l'un des 5 plus grands pays producteurs d'huile de palme. Et le cinéaste explique. On y trouve, à une autre échelle, des forêts primaires et des palmeraies, des usines d'extraction d'huile, le même type de paysage et de climat, une architecture similaire. La chaleur y est aussi suffocante qu'en Indonésie. Nous avons vécu un pic historique de température et de pollution lorsque nous y étions. La Thaïlande a également une industrie de cinéma reconnue. Le pays dispose d'infrastructures et d'équipes techniques très professionnelles. Nous nous sommes inspirés de nos repérages en Indonésie pour le choix de nos décors. Comme pour Au nom de la Terre, je voulais que tout soit crédible jusqu'au moindre détail. C'était primordial. Nous avons tourné pendant 2 mois en Thaïlande au cours du printemps 2023. Voilà un petit peu pour situer un petit peu les conditions un petit peu dantesques. Voilà, quand il faut tourner dans ces pays-là, quoi.
Voilà, c'est un sujet intéressant. Évidemment, tu le disais.
L'huile de palme, c'est une horreur.
Ouais, absolument. Il y a des tribus qui disparaissent. Il y a des animaux.
Absolument. Absolument.
Mais c'est vrai que.
Et ça détruit entièrement le paysage. Puis c'est moche en plus. Hein. Je sais pas si tu regardes les vues aériennes de Palmeraie, mais c'est, voilà, il y a plus rien qui pousse. Il y a plus de vie. Hein. Et puis il y a plus rien. Plus d'insectes, plus d'animaux. Et tout ça pour faire du entre autres du Nutella.
Ouais.
Voilà. Maintenant vous le savez, quand vous mangerez du Nutella, voilà. Bah, pense à la forêt primaire.
Ouais. C'est clair.
Donc voilà.
Donc, eh bien, voilà, un film intéressant avec une actrice, l'amie qui fait son retour sur les écrans. On l'a déjà vu dans d'autres films avec. Cette performance d'actrice, en tout cas.
Absolument, mais déjà elle a joué dans Louise Violet, qu'on a passé il n'y a pas très longtemps, là, en avant-première pour le Rotary Club. Hein.
Mm-hmm.
Voilà, c'était une belle avant-première, là, et c'était vraiment chouette.
On va écouter un extrait de La Promesse Verte, et on se retrouve juste après.
Listen carefully. What do you hear?
I don't hear anything.
Because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans. All gone.
Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois.
Hey yo, t'en permets.
Et de laisser en prison un innocent. Pour le réduire au silence.
Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne.
Non, s'il vous plaît, non.
Saïd Ayouch, attaché dans ma salle.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont attaqué un village.
Ils m'ont piégé, voilà.
Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme.
Non, on en est partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas.
Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau.
Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils.
Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire.
Votre fils se trouve au cœur d'un jeu économique et politique qui dépasse complètement son cas.
Apart from your mother, no one will believe you.
We continue to destroy the forest, even though we know the consequences.
Bartholomew va se battre. On va aller jusqu'au bout.
Voilà, La Promesse Verte à voir absolument cette semaine, c'est important, se mobiliser. Alors, pour...
Juste pour revenir sur l'Indonésie et ses forêts primaires, j'avais assisté à une scène absolument émouvante un jour en regardant un documentaire sur la déforestation. T'avais un gars avec une tractopelle qui était en train de pousser des arbres qui étaient centenaires, hein, et t'avais un orang-outan qui essayait de grimper sur le tractopelle pour... Et tu le voyais, il demandait au chauffeur d'arrêter, d'arrêter. Et c'était vraiment émouvant, et c'est là que tu vois la stupidité, on va dire, humaine, et puis le massacre que ça peut engendrer, quoi.
Ouais.
Voilà.
Voilà, donc un film qui nous fait ouvrir les yeux, hein, c'est important d'aller le voir.
Absolument.
On enchaîne avec Hors Saison, là aussi on va ouvrir les yeux avec un autre film intéressant, c'est le
un
retour
plus calme,
des rencontres, me semble-t-il, des rencontres d'il y a longtemps qui reviennent, avec notamment Guillaume Canet qui revient sur les écrans, je crois.
Voilà, Guillaume Canet qui revient sous l'objectif de la caméra de Stéphane Brisé. Alors au début je me suis dit, tiens, Stéphane Brisé, il me dit encore Vincent Lindon, parce que c'est quand même, il est habitué, Vincent Lindon, de tourner avec Stéphane Brisé. Stéphane Brisé a choisi Guillaume Canet. Hors Saison, un film français d'une heure 46, c'est une comédie dramatique. Hein. Alors on va retrouver Guillaume Canet, Alba Rorve Washer, Sharif Andoura, Marie Drucker, Amy Boissard, Paumel, Lucette Bedin, Gilberte Bellus et Hugo Dillon. Donc c'est l'histoire de Mathieu qui habite Paris et Alice qui vit dans une petite cité balnéaire dans l'ouest de la France. Il approche la cinquantaine, c'est un acteur connu. Elle a dépassé la quarantaine, elle est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années. Puis séparés. Depuis, le temps a passé et chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées peu à peu. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains aromaux d'une thalasso, il retrouve Alice par hasard.
Comme quoi ?
Comme quoi, hein, des fois, le hasard fait bien les choses. Alors, Hors Saison est le 10e long métrage de Stéphane Brisé. Le sentiment dominant au moment où il a pensé à faire ce film est le même qui appartient à tous ses personnages principaux depuis donc La Loi du Marché jusqu'à Un Autre Monde, La Désillusion. Et il explique, tous ces personnages ont cru en quelque chose. Ils avaient toutes et tous une certaine idée du monde et de l'homme. Et puis, leur regard a changé après la trahison et l'abandon. Que cela vienne de l'entreprise ou de la famille. Cela représente finalement pas mal d'années à faire intimement le même parcours que mes personnages et donc à prendre symboliquement les mêmes coups qu'eux. J'ai de toute évidence écrit et réalisé des films pour acquérir plus de clairvoyance, mais il n'y a pas d'avantage sans inconvénient et de clairvoyance fragilise. J'ai alors eu besoin de questionner ce moment où j'étais épuisé par la colère sur laquelle s'étaient construits ces films. Donc il y a deux décors principaux, donc l'hôtel et la station balnéaire donc, ont été pensés comme des personnages à part entière. Stéphane Brisé confie. Dans ce film, les décors ne sont plus seulement envisagés comme des espaces intérieurs ou extérieurs qui accueillent les scènes, mais aussi comme l'expression de la psyché des personnages. Je n'avais jamais vraiment su le faire avant. L'hôtel immense au luxe aseptisé, envisagé aussi comme la métaphore de la perfection du monde, donc qui est celui du personnage joué par Guillaume Canet, dans lequel il n'est plus heureux. Et la cité balnéaire endormie, envisagée comme une parenthèse dans un cycle. Il s'est passé des choses dans les rues, il s'en passera d'autres bientôt, mais en cette période d'entre-deux, c'est le vide. Un lieu sans tumulte qui laisse la place à l'introspection, qui l'impose même aussi sans doute. Donc Guillaume Canet joue un acteur. C'est ce qui est marrant déjà, parce qu'il est déjà acteur. Alors toutefois, Stéphane Brisé n'a pas voulu faire de son métier. Et sa notoriété, les sujets du film. Le personnage porte des questions, des doutes et des inquiétudes que tout un chacun peut avoir. Et comme il nous dit, par contre, la certitude que les autres ont de son bonheur au regard de sa réussite et que lui-même est aussi un peu obligé de vendre apporte une forme d'ironie sur son malaise. En écho à ce que disait Louis Jouvet, il disait « Rien de plus futile, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre. J'avais besoin que les questionnements soient portés par une figure que je considère comme sublime, nécessaire et inutile. Car il y a du dérisoire et de l'héroïque dans cette fonction d'acteur, comme une exacerbation du dérisoire et de l'héroïque de notre existence. Le sublime et le vain intimement mêlés. Sublime parce que l'acteur est celui dans lequel se projette l'inconscient collectif par les rôles qu'il interprète. Et complètement vain parce que si un film ne se fait pas, d'abord personne ne le sait et ensuite tout le monde s'en fout. Alors qu'un éboueur qui cesse de ramasser les poubelles, on ne s'en fout pas, c'est tout de suite le chaos dans la ville.
Ça c'est vrai.
Je pense qu'il pense à Marseille.
Oui, je pense, ouais. Ou à Paris.
L'acteur, ouais, comme ou Paris, ouais. Et comme le chanteur, comme le réalisateur, comme l'écrivain et le peintre, il ne sert à rien de concret et d'immédiatement utile. Et pourtant, bien évidemment, il est magnifique et indispensable parce qu'il sert à raconter le monde et ses habitants. Donc le choix Guillaume Canet, donc Stéphane Brisé envisage la fiction comme un documentaire sur les comédiens avec qui il travaille. Le réalisateur explique quant au choix de Guillaume Canet pour le personnage de Mathieu. Ce qui résonne en moi chez Guillaume Canet, c'est son infinie mélancolie. Je l'ai toujours ressenti comme un homme profondément triste et avec beaucoup de talent pour le dissimuler. Cela me touche énormément. Guillaume est un être bien plus complexe que ce qu'il semble peut-être être. Il avait en plus l'âge du rôle, le temps qui passe lui va bien. Il a une capacité énorme de dérision sur lui-même. C'était essentiel pour accepter de se balader un bon tiers du film en peignoir entre les bains à remous et des enveloppements d'algues. J'ai eu affaire à un acteur d'exception très simple. C'est important pour moi, très sérieux, très investi et très profond. Il est de ceux qui n'ont pas peur de se laisser emmener dans leur zone d'inconfort et d'insécurité, avec en face de lui une actrice, elle aussi, d'exception. Voilà un petit peu pour... vous aiguillez sur ce film-là, Hors Saison, donc de Stéphane Brisé,
voilà,
qui sera à découvrir à La Brèche cette semaine.
Des retrouvailles après tant d'années d'absence, on se retrouve par hasard.
Voilà. Une drôle.
Et qu'est-ce qu'on peut se raconter ?
Voilà, ça c'est tout le sujet du film.
Et vous le saurez évidemment dans ce film Hors Saison. Tu l'as dit, Guillaume Canet qui fait son retour, mais cette fois-ci en tant qu'acteur et non pas en tant que réalisateur.
Réalisateur, oui.
On va écouter un extrait, on se retrouve juste après.
Ouais, ça va.
Tu fais quoi, toi ?
Comment ça, qu'est-ce que je fais ?
Dans la vie ?
Je suis comédien.
Tu vas se mettre dur ?
Ça va.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît ? Une deuxième ?
Tu vois, le dossier classé.
Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus, en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien, en fait.
Un message pour vous a été déposé à la réception.
Allô ?
Allô, Alice ?
J'étais pas sûre de te contacter.
Non, je suis très heureuse.
Je parle toujours aussi mal le français.
Non, mais zéro progrès, c'est quand même fou.
Toi,
va pas bien, mais le tout va bien.
Qu'est-ce qui ne va pas dans le tout?
Tu vois, ça, les golfs, là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on était ensemble?
Il sait qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais?
Voilà, on soulignera au passage chanson signée par Vincent Delerme.
On connaît un petit peu la mélodie. Je ne savais pas, d'accord.
Voilà, hors saison à voir avec le retour de Guillaume Canet sur les écrans cette semaine à La Brèche.
Voilà, alors juste pour la petite anecdote, donc avec hors saison, Guillaume Canet collabore pour la première fois donc avec Stéphane Brisé qui avait pour habitude de tourner avec Vincent Lindon.
Ah oui, ouais,
comme en témoigne leur collaboration sur les drames comme Mademoiselle Chambon, qui était super bien, moi j'ai adoré, Quelques heures de printemps, La loi du marché ou En guerre. Un autre monde. Donc, lorsqu'il a été sollicité par Brisé, Canet, qui par ailleurs entretient de bons rapports avec Lindon, a téléphoné à ce dernier pour éviter tout malentendu.
J'imagine.
Dans une interview qu'il a donnée à France Inter. Donc voilà un petit peu donc le changement un petit peu d'acteur pour Stéphane Brisé. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien son cinéma.
C'est bien
Stéphane
changé
Brisé.
Aussi, ouais,
absolument, c'est bien changé aussi.
Allez, on va enchaîner avec un autre rendez-vous, La Nouvelle Femme. Voilà, t'as plein de choses à nous raconter sur ce
alors,
film.
Évidemment, le sujet tourne autour de Maria Montessori. Enfin, je pense que vous connaissez un petit peu les écoles Montessori. Ouais. Ce sont les écoles pour des enfants qui ont des difficultés un petit peu à apprendre. Et, ouais. Voilà, et c'est toute une pédagogie qu'elle a mise en place et qui date du début du siècle, fin 19e, début du siècle dernier. Donc Maria Montessori, si vous voulez, elle est née, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, pour voir un peu qui était cette femme hautement courageuse et qu'on a essayé un petit peu de rabattre un petit peu à sa condition de femme. Et elle s'est battue hein, pour faire des études déjà, pour devenir médecin aussi. Et après, elle a rencontré tout un tas de spécialistes, notamment en France. Donc elle est née le 31 août 1870 en Italie. Et elle est décédée le 6 mai 1952 aux Pays-Bas. Elle était donc médecin et pédagogue italienne. Et elle est connue pour la méthode pédagogique qui porte son nom, donc la pédagogie Montessori. Donc dès l'âge de 14 ans, elle se passionne pour les mathématiques. Et encouragée par sa mère, elle intègre en 1884 le collège technique Michelangelo Buonarroti, réservé aux garçons malgré l'opposition de son père. Bon déjà, tu vois, ça commence déjà, c'est 14 ans. Hein. Elle en sort diplômée 2 ans plus tard. Découvrant la biologie, elle poursuit ses études et elle obtient son baccalauréat, puis s'inscrit à l'université en sciences naturelles. Elle souhaitera devenir médecin, malgré les préjugés, écoute bien, et le refus donc, du ministre de l'Éducation nationale. C'est Montéo, quand même, son histoire. Hein. C'était déjà
terrible,
un ovni pour son époque. Hein. Donc elle est l'une des premières femmes à décrocher son diplôme de médecin en Italie, ainsi qu'une licence en biologie, en philosophie, en psychologie. Et c'est entre 1894 et 1896, en travaillant comme assistante dans une clinique, qu'elle rencontre plusieurs enfants déficients mentalement. Elle obtient... Alors c'est là qu'elle s'aperçoit en fait que les gamins ils sont mélangés avec les adultes. Elle se dit ça va pas ça. Et donc elle obtient alors du directeur de l'hôpital, qui est quand même un petit peu visionnaire, la création d'un service séparé qui sera considéré comme l'un des premiers services pédopsychiatriques d'Italie. Alors très vite, elle milite activement pour la défense et la reconnaissance dans des droits des femmes, évidemment, ainsi que ceux des enfants atteints de déficience mentale. Donc c'est en 1906 qu'elle crée sa méthode pédagogique pour les très jeunes enfants valides. Sa méthode repose sur des principes suivants. Et ça, c'est important. Le libre choix de l'activité, l'autodiscipline, le respect du rythme de chacun et l'apprentissage par l'expérience. Et elle a laissé cette phrase que j'aime beaucoup. N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors, apprenons-leur à s'adapter. Ah oui. Voilà un petit peu la philosophie de Maria Montessori.
Visionnaire,
oui, pour son époque, oui, bien sûr. Oui, évidemment, les métiers des sciences étaient super cadenassés, évidemment. Donc, La Nouvelle Femme, évidemment, c'est le premier film de Léa Todorov, hein, un film franco-italien d'une heure 39, un drame historique. Hein. Donc, on va retrouver Jasmine Trinca, Leila Bekti, Raphaël Somville-Cabi, Raphaël Esposito, Laura Borelli, Nancy Houston, Agathe Bonitzer et Sébastien Poudérou. Donc en 1900, Lily Dallangy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux. Sa fille Tina naît avec un handicap. Peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle alors déficients. Mais Maria cache elle aussi un secret, un enfant né hors mariage. Ensemble, les deux femmes vont s'entraider pour gagner leur place dans ce monde d'hommes et écrire l'histoire. Donc La Nouvelle Femme est le premier long-métrage de fiction de Léa Todorov et on lui souhaite une bonne chance. Bonne chance, hein. C'est pas simple. Auparavant, elle a réalisé les documentaires donc Sauver l'humanité aux heures de bureau et Utopie russe. C'est en co-écrivant en 2016 le documentaire Révolution, école, l'éducation nouvelle entre les deux guerres, réalisé par Joanna Grudzinska et consacré aux pédagogies alternatives dans l'entre-deux-guerres, qu'elle se documente sur Maria Montessori. Et la réalisatrice raconte « Sa vie est compliquée et passionnante. Entre 1922 et 1932, rappelée en Italie par le ministre de l'éducation fasciste, c'est vrai qu'elle a un petit peu œuvré dans les sphères fascistes, mais elle a vite compris que c'était pas bon, pour transformer en profondeur le système éducatif italien en vue de fabriquer l'homme nouveau. Elle avait trouvé, à l'instar des Allemands, hein.
Ah oui.
Ils ont fait pareil. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Tu sais, les camps de scouts, les camps de travail, oui, allemands, c'est pareil. Ouais. Puis à Paris, sous Pétain, c'est pareil. Hein. T'avais les camps pour les gosses aussi. Donc, envie de fabriquer l'homme nouveau. Elle avait trouvé dans le fascisme une opportunité de répandre sa méthode. Mais ce qui avait aussi retenu mon attention, c'était le fait qu'elle ait dû abandonner son enfant pour devenir la femme qu'elle a été. Donc, issue du documentaire, Léa Todorov s'est vue proposer par le producteur Grégoire de Bailly de travailler sur un biopic de Maria Montessori, et ce, après la naissance compliquée de sa fille en 2017. Et elle nous dit « Je savais alors que j'allais avoir un enfant différent. Et il a eu l'intuition que je saurais me saisir de cette idée d'une manière personnelle. Sa fille apparaît d'ailleurs dans La Nouvelle Femme. Je me suis posé la question à un moment de lui faire jouer le rôle principal, mais elle était beaucoup trop petite. Elle apparaît donc dans le film, notamment dans la seule scène où une enfant pleure. La raison est simple et terriblement utilitaire. Je ne pouvais pas laisser pleurer une petite qui n'était pas la mienne. Mais ça m'a brisé le cœur. Elle n'était vraiment pas contente. » Donc La Nouvelle Femme est l'expression qu'utilisent communément les historiens pour désigner ces femmes féministes, éduquées et indépendantes de 1900 qui avaient réussi à accéder à des fonctions professionnelles et à des carrières universitaires et qui affirmaient une place dans la société par le savoir. Dans l'histoire de l'Occident, on n'a pas cessé de réinventer les femmes, de découvrir qu'en réalité, elles n'étaient pas stupides, souligne la réalisatrice. Et oui. Donc Léa Todorov s'est beaucoup documentée sur Maria Montessori et s'est nourrie en particulier de trois biographies. Celle très complète de Rita Kramer, celle plus critique de Marjane Schwingman et celle de Valeria Paola Bambini qui se concentre sur son féminisme scientifique, ainsi que du journal de l'année 1913 de Montessori elle-même, rédigé au cours d'un voyage transatlantique et dans lequel elle s'adresse beaucoup à son fils. Et elle explique « J'ai eu le souci tout au long de l'écriture d'être le plus juste possible sur ce que je dirais de Maria. Même si son discours est parfois reformulé pour des besoins de clarté du scénario, je voulais que chaque mot lui soit fidèle. » Donc la pédagogie Montessori est une méthode créée en 1907 par Maria Montessori reposant sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant. Développée à l'origine pour les enfants neuro-atypiques, cette méthode aux résultats étonnants a été appliquée par Montessori sur un spectre plus large d'enfants avec des résultats encore plus probants. Elle s'appuie sur des objets pédagogiques qui permettent aux enfants d'apprendre seuls, guidés par une enseignante qui les encadre, et de sentir et d'expérimenter de manière très concrète des concepts. Elle a un vrai point de vue de médecin sur l'éducation, déclare la réalisatrice. Alors, tourner avec des enfants neuroatypiques. Ah, durant l'écriture, Donc, durant l'écriture, Léa Todorov n'envisageait pas de diriger des enfants neuroatypiques avant de participer à la résidence Cinéma d'émergence en mars 2021 qui accompagne les réalisateurs dans leur projet de premier long métrage. Cette expérience lui a permis d'envisager pour la première fois concrètement la fabrication de La Nouvelle Femme. Il lui est alors apparu évident qu'il fallait tourner avec des enfants neuroatypiques. Et elle raconte « Nous nous sommes très vite rendus compte que nous arrivions à établir un lien puissant avec des enfants qui rencontrent parfois des difficultés très importantes et que l'on a finalement toujours exclu. Certains des enfants avaient des difficultés motrices, d'autres cognitives, d'autres des troubles sensoriels. » Elle revient sur la rencontre entre l'équipe et les enfants et elle nous dit « Ça a été une expérience très forte pour tout le monde parce que les peurs et les a priori se déconstruisent rapidement dès qu'il y a contact. » Tout le monde a vite réalisé qu'il n'y avait pas besoin d'être spécialisé pour être en lien, qu'il suffisait au contraire d'être dans le travail et dans l'exigence. » Voilà un petit peu, pour vous parler un petit peu de ce biopic, un petit peu sur Maria Montessori, une femme étonnante. Hein,
qui, intéressant, ouais.
Voilà, qui a éclairé donc,
qui a
la
courage
fin
aussi,
du 19e, ouais. Beaucoup de courage, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui a aussi su passer au-dessus des barrières, quoi, des bâtons que lui mettait dans les roues, et ça, je trouve ça chouette, quoi.
Ah, et puis c'était l'époque, hein. C'était pas.
Ah, les milieux scientifiques étaient super fermés.
Ah oui, absolument.
C'était fermé. Oui.
Eh bien, à voir, hein, La Nouvelle Femme, cette semaine à la Brèche. Voilà,
de Léa Todorov.
Exactement, Pascal. On va revenir sur notre rendez-vous. Rendez-vous un peu plus, on va dire, différent carrément. Hein. On va se faire peur.
Oui, un film monstrueux.
Monstrueux, oui. Une grosse bête.
Un film monstrueux en VO en plus.
D'accord.
Un film d'horreur, d'épouvante. On va parler de The Host. Et c'est dans le cadre de l'opération Ciné-Mémoire qui aura lieu donc, le mercredi 27 d'accord. mars, donc à 20h. Oui, il n'est pas tout jeune le film. Hein. Mm-hmm. Et le tarif est unique, hein, ça sera 6,50. Hein. Et il y aura la présentation du film avant la projection par ma collègue, donc Marjorie.
Voilà. Marjorie que l'on salue. Hein.
Absolument, mais que tu connais. non
qui vient de temps en temps nous voir à la radio. Marjorie donc, qui va animer, on va dire...
Il y aura la présentation ouais, du film. Hein.
Voilà, présentation du film, on pourra... On pourra parler en coréen, non ?
Ah, ça sera... Oui, bah, si tu veux. Si tu veux t'y mettre, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, un film... Alors, coréen, évidemment, du Sud. Hélas, moi, j'attends avec impatience les films de la Corée du Nord. Mais vraiment, ça serait chouette qu'ils s'y mettent.
Audacieux.
Ouais, ouais. Et qu'ils passent les frontières aussi. Un film coréen donc, de 2 heures, action-drame de Bong Joon-ho. Alors, les acteurs.
Oh là, courage.
C'est parti. Au niveau des acteurs, on va retrouver Song Kang-ho, Lee Bong Joon, Park Ae-il, Donna Bak, Ko Ah-sung, Kim Roy-ha, Pi Sung-yim et Lee Dong-ho. Oh, j'ai fait un sans faute. Donc nous sommes à Séoul et Gang-du, c'est un personnage, attention, tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec sa famille dont sa fille adorée, Yum-seo. Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière et attaque la foule. Gang-du tente de s'enfuir avec sa fille mais elle est enlevée brusquement par le monstre qui disparaît au fond de la rivière. La famille Park décide alors de partir à la recherche de la créature pour retrouver Yum-seo. Tout un périple quand même. Oui. Donc c'est de l'horreur au burlesque, bien qu'étant essentiellement un film de monstres, The Host possède aussi une dimension comique, comme l'explique le réalisateur. Les situations les plus désastreuses ont toujours des aspects tragiques et comiques. Comme les héros du film sont plutôt pathétiques, il était inévitable qu'ils connaissent des situations loufoques. Je n'ai pas consciemment cherché à faire une comédie. Si un tel désastre arrive en Corée, je suis certain que cela pourrait créer des situations similaires à celles décrites dans le film. Bon, alors moi, j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que c'est quand même... c'est assez monstrueux. Donc, Joon-ho Bong a confié donc la réalisation des effets spéciaux à la société The Orphanage, créée par des anciens membres de Industrial Light and Music. Cette société a déjà eu l'occasion de se faire remarquer en travaillant sur des succès comme Sin City, Hellboy, Harry Potter et la Coupe de Feu, ou encore Superman Returns. Par ailleurs, pour donner vie à la créature, les techniciens se sont basés sur une maquette réalisée par la société néo-zélandaise Weta Workshop, à qui l'on doit notamment les effets spéciaux de la trilogie du Seigneur des Anneaux et de King Kong. Ça rigole pas, hein ?
Ah oui, d'accord.
Oui. Donc c'est Joon-ho Bong, le réalisateur, fait des berges de la rivière Han, le lieu où l'intrigue de The Host prend vie. Endroit très fréquenté par les habitants de Séoul, il est synonyme de sécurité pour la population qui le côtoie. Le cinéaste choisit ainsi de faire de cette rivière familière et populaire un lieu étrange et dramatique après l'apparition du monstre. Et comme il nous dit, comme c'était le cas dans Barking Dogs, Never Bite et Memories of Murder, c'est le conflit entre la quotidienneté et l'imaginaire, entre la réalité coréenne et les caractéristiques du cinéma de genre que j'ai voulu mettre en scène, explique le réalisateur. Voilà, vous voulez être effrayé
par un gros poisson,
par un énorme poisson, ouais.
Allez faire un tour à voilà, Séoul, et vous serez servi.
The Host, donc projection unique, donc le mercredi 27 mars, donc à 20h à la Brèche. C'est à tarif réduit, hein, dans le cadre de Ciné-Mémoire.
Voilà, c'est un film qui date de 2006, précisément. Allez, on va parler de bonnes surprises, mais
oui.
Une surprise qui peut dégénérer.
Oui, une, voilà. Bonne, enfin, oui, une bonne ou une mauvaise.
Oui, une mauvaise, oui.
Tout dépend par
comment on voit.
Ouais, comment on voit les choses.
Heureux gagnant.
Heureux gagnant. De Maxime Govard et Romain Chouaille, un film français d'une heure 43, c'est une comédie. Mm-hmm. On va retrouver au niveau des acteurs. Alors, il y a des acteurs sympas dedans, quand même, mine de rien. Audrey Lamy, Fabrice Eboué,
Oui.
Anno Greenberg, Pauline Clément, Louise Coldfi, Samy Ouattalabi, Victor Metelet et Mathieu Lourdel. Alors, t'as une chance de gagner sur combien de millions au loto ? Je croyais que c'était 3 au début. Non.
Oh, plus que ça ?
C'est plus que ça, bien plus.
Bah oui, 1 sur 9, 1 sur 10.
Le ratio, il est impressionnant. Non. Une chance sur 19 millions.
Ah oui, d'accord.
Bon. Alors, faut rester concentré quand même quand tu fais ta grille, tu vois.
Si tu gagnes, t'es hyper, hyper chanceux, quoi.
Ouais, je pense, oui. 1 sur 19 millions.
Tu sais qu'il y en a qui ont fait
l'élu, tu es l'élu.
Il y en a qui ont fait des calculs, hein. Ils ont même inventé des machines pour tirer les bons numéros. Ouais.
Ah oui, enfin, il y en a qui font des probabilités.
Ouais,
mais moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Ça m'arrive de faire une grille. Hein.
Ah oui.
Et tu vas sur les sites du loto.
Ah oui, non, mais ça, c'est une grille aléatoire.
Non, je fais pas des flashs.
Ah ouais, d'accord.
Non. Non, j'ai fait des flashs.
Il y en a qui ont gagné au flash.
Non, je t'explique. Oui, bah, c'est quand même assez rare. Mais oui, voilà, faut être vraiment touché par la grâce. Bon, mais ça, après, je vais dire, bon, ça, j'y crois pas trop, tu vois. Et moi, ce que je fais, tu vas sur le site de la Française des Jeux.
Ah oui, savoir les numéros
et tu regardes les statistiques.
Ah ouais.
T'as toutes les statistiques, tu te sers de ce que tu veux, en fait. Moi, j'ai pris une série de chiffres. Et de nombres qui sont sortis le plus souvent de l'année.
Ça marche ou pas T'as gagné, non?
Je suis souvent remboursé.
Ah ben.
Non, mais tu vois, c'est que c'est quand même un petit. Non, mais voilà. Tu vois.
De zéro.
Donc, t'as une chance, c'est une chance sur 19 millions.
Ah ouais,
autant voilà. Te dire que. Donc, c'est plus de probabilité d'être frappé par une météorite que de gagner au loto. Mais oui, c'est vrai.
Vu comme ça, oui, c'est pas mal.
Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar et leur vie va voler en éclats dans un spectaculaire feu d'artifice de comédie noire et de sensations fortes.
Bah, j'imagine.
Oui, parce que l'argent fait pas toujours le bonheur. Hein.
Bah oui.
Donc, avec heureux gagnants, Maxime Govard et Romain Chouaille voulaient raconter ce qui peut totalement chambouler la nature humaine et tous ses systèmes de valeurs. Et comme ils nous disent, l'argent tombé du ciel grâce à un jeu de hasard comme le loto s'y prêtait parfaitement. Il était question d'histoires extraordinaires arrivant à des gens ordinaires. Gagner au loto, c'est comme un accélérateur de particules.
Tu m'étonnes.
Votre vie bascule du jour au lendemain.
Ouais.
Donc Maxime Govard et Romain Chouaille ont voulu montrer à quel point gagner au loto peut devenir un cauchemar. Ainsi, alors qu'il y a combien de pourcentage de gens qui remportent le gros lot et qui sont ruinés dans les 4 ans? Ah, c'est une bonne question.
Ah oui?
Qui gagnent le gros lot et qui sont ruinés dans les 4 ans.
Combien de personnes?
Oui, le pourcentage.
Allez, 70%.
Oh vache, mais tu es pessimiste, l'espèce humaine, toi.
Non.
50%, ce qui est énorme.
Ouais,
attends, là, 50% qui pètent les plombs en 4 ans.
Ouais, mais t'imagines le nombre de personnes qui gagnent chaque semaine?
Non.
Bah, y a toujours des gagnants chaque semaine.
Non, pas du tout. Des fois,
c'est pas souvent. Hein.
Non, il y a des fois, il y a zéro.
Ah bon?
Zéro gagnant. Ah, ouais,
c'est souvent qu'il y a zéro gagnant.
Oui, à répétition, des fois. Oui.
Ah, d'accord.
Absolument.
Ah, bon, oui. Je me dis.
Non, mais déjà.
Régulièrement, il y a des gens qui.
Mais régulièrement. Ça tout dépend ce que tu mets dans régulièrement. Mais je t'assure qu'il y a des tirages, plusieurs que j'ai eus, c'est zéro.
Ah, ouais, d'accord.
La tête à tout. Donc, tu peux gagner au deuxième tirage, ou alors si t'as le code.
Oui,
t'as un code
sur
ton ticket,
ah ouais,
tu sais,
ouais.
T'as des chiffres et des lettres.
Le ticket, ouais.
Non. Je crois que c'est 20 000 balles, les chiffres.
Ça fait penser au film Le Boulet.
Voilà.
C'est
Le Boulet, oui.
Le Boulet. Avec l'envin et.
Exact.
Et qui perd son ticket.
Non, ils sont 50% des gens qui remportent le gros lot qui sont ruinés dans les 4 ans. Et les réalisateurs précisent, c'est trop d'argent d'un coup pour des gens pas forcément prêts à cela. Ça attire trop de convoitises. Et puis nous avons l'exemple d'un comédien que nous connaissions dont la femme a joué au loto avec deux amis proches. Elle avait acheté 3 bulletins différents, mais elle était la seule à avoir les bons numéros et ses deux copines ont voulu qu'elle partage en 3, ce qui était aberrant. Bon, alors je ne sais pas si c'est aberrant.
Ouais.
Le même jour, elle a donc gagné 1,5 million et perdu ses meilleurs amis.
Bah oui.
Ça fait cher, hein.
Ouais.
Tu payes cher, quand même.
En fait, quand tu gagnes...
Tu te barres.
Il faut être seul.
tu prends l'avion.
Il faut pas changer ta vie, quoi, en fait.
Ouais, Alors, moi, j'ai vu des gens qui ont gagné au loto, qui continuent de travailler, qui l'ont même pas dit aux enfants.
Ouais.
Ils l'ont même pas dit aux enfants.
Ouais.
Pour justement qu'ils connaissent la vie, qu'ils aillent au turbin, qu'ils connaissent un petit peu ce que c'est que les difficultés, tout ça, bien sûr, oui. Et il y a un gagnant du loto, tu vois, il a passé toute sa nuit à réfléchir, et le lendemain, ben, il est allé bosser. Mm-hmm. Tu tu vois, comme quoi ça fait pas forcément l'effet escompté ou ce qu'on te montre dans les pubs ou quoi. Donc
ouais, ça dépend comment. Mais je crois que t'es pris en charge hein, quand tu gagnes.
Ouais, t'as tout ça. Mais enfin, je veux dire,
t'as le banquier déjà qui vient te voir.
Oui, mais t'as plein de copains. T'es sûr. Mais t'as même Porsche, Mercedes qui se déplace. Évidemment, si tu veux pas, quelques options. Oui, oui. Sur ta future bagnole qui vont te vendre. Bah voilà, toutes ces choses qui sont complètement inutiles entre parenthèses.
Ouais.
Par contre, moi, j'ai juste un exemple. Je me souviens d'une histoire d'une femme qui avait gagné au loto.
Dans le coin, là ?
Non, pas dans le coin. Et elle allait dans les supermarchés. Et régulièrement, elle se pointait devant une caisse.
Elle donnait à des gens.
Elle payait la note.
Ouais.
Elle choisissait une personne, elle payait la note. Elle se barrait.
Ouais.
Elle faisait ça assez régulièrement.
Ça, c'est chouette.
Mais oui, parce que quand tu reçois une tonne d'argent comme ça, franchement. C'est bien de le redistribuer aussi, tu vois. Mmh. C'est bien de faire du bien aux gens.
Bah, c'est fait. Et faire du bien aux gens. Impôts, hein.
Ouais, voilà. Et faire du bien aux gens, oui. C'est se faire du bien à soi aussi.
Ouais.
Tu peux tout garder comme un con, faire jouer avec les intérêts, les machins, les trucs. Ouais. Mais ça rend pas plus heureux. Hein. Je vois tous les gens qui sont interviewés, qui ont gagné au loto, ça les rend pas plus heureux.
Mais en fait, ils ont tout.
Bah déjà ils ont tout, mais enfin ouais.
Tout seul.
Ah bon, après ils font plaisir, hein. Ils se sont achetés des villas aux îles Marquises, tout ça, où ils vont en vacances régulièrement. Mais après leur quotidien il est en France, ça veut dire ça change rien leur quotidien quoi. Elle fait le ménage dans sa baraque, elle a pas de femme de ménage. Enfin, c'était surtout la femme qui parlait quoi. Et, tu vois, il y a des gens qui gardent les pieds sur terre, c'est important. Mais tout crame en 4 ans, mon Dieu, le programme il doit être d'enfer. Hein.
Ouh. Aller au cinéma tous les jours.
Ouais, ça va, mais ça, tu vas pas te ruiner déjà, surtout à la brèche. Donc du coup, ils nous disent, les réalisateurs, nous voulons faire un film qui soit ludique et fun pour les spectateurs, placés au centre des situations, réaliser un roller coaster d'émotions qui joue avec nos sentiments de manière parfois un peu féroce et ironique. Et il y a des choses, comme il nous dit, qu'on a entendues, d'autres que nous avons extrapolées. Mais rien n'est vraiment basé sur une histoire vraie, tout est inventé. Côté référence, Maxime Govard et Romain Chouaille citent Les Nouveaux Sauvages de Damien Sifron, Very Bad Thing de Peter Berg et Barbac de Fabrice Eboué. Et il nous dit, je citerai également sans prétention aucune Pulp Fiction, c'est une très bonne référence, de Tarantino, dans la manière qu'il a de raconter plusieurs histoires liées par un même thème. On a pu aussi être inspiré par certains aspects de l'œuvre de Claude Chabrol. L'idée était de proposer un genre par histoire, action, comédie, romantique, ou un peu plus cynique, confie le second. Donc Maxime Govert et Romain Chouard expliquent pourquoi ils ont choisi Fabrice Eboué pour incarner Paul. Donc Fabrice cochait deux cases, celle de l'humour noir évidemment, mais aussi le fait qu'il représente tellement le français moyen à travers ses rôles, un peu touchant de lâcheté, un peu loser magnifique. C'est notre Marianne au masculin, il dégage de plus en plus d'humanité. Le scénario l'a beaucoup fait rire, et nous-mêmes avions beaucoup ri en allant voir Barbac alors que nous étions en pleine écriture du film. Il les ajoute au sujet de Audrey Lamy, il y a des comédiennes de drame et des comédiennes de comédie. Audrey excelle tout simplement dans les deux genres. Agréable et spontanée, elle incarne quelque chose de très populaire, au sens noble du terme, proche des gens. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce film. Mais si vous voulez voir des gens péter les plombs,
tu m'étonnes.
Après avoir gagné au loto.
Voilà. On écoute un extrait, on se retrouve juste après.
Oh putain!
Quoi? C'est combien?
Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
5 millions!
5 millions!
On va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions!
Bienvenue au tirage Top Millions de ce jeudi. Allez, c'est parti pour le tirage de ce soir.
Oh, moi, risque que je me casse de ce moroi.
Avons-nous ce soir un heureux gagnant?
Le 13!
Le 13!
J'arrive pas à réaliser, j'ai pas dormi de la nuit.
Et oui, nous avons un grand gagnant ce soir.
On a gagné 60 millions.
Ah non, c'est pas notre ticket.
Ça va ?
Là, t'es multimillionnaire depuis même pas 10 minutes et ça te rentre dedans.
Divise en 3.
Ouais, alors après, c'est quand même mon ticket là-bas.
En 3.
Ouais.
Depuis que Jeffrey est rentré dans nos vies, le mal est plein au-dessus de nous.
On est riches maintenant.
Il y a riches, ils s'en sortent de tout, toujours.
Attends. Il y a pas une date limite ?
C'est aujourd'hui.
Côté une petite pute.
Ouf. Dis-moi combien et après on va piger, voilà.
Toi, avant le pute.
Ils ont dit qu'avant de me buter, ils allaient me faire tourner comme la pire des schnecks. Je sais même pas ce que ça veut dire.
Voilà, donc,
ça va être épique, ça va franchement déménager.
Ah oui, et oui. Puis c'est vrai, j'ai pas pensé une chose, tu peux te faire rançonner.
Oui aussi, oui, oui. si. Si tu fais trop de bruit, il y a des chances. Ouais,
c'est moche. Bon,
voilà. Avoir l'argent. Non, mais celui-là, il a l'air d'en faire. Mais le sujet est super, il est très intéressant, entre parenthèses.
Ouais, c'est. Moi, je me souviens de ce fameux boucher de Pessac en Gironde qui avait gagné l'euro million. Ouais. Il a complètement déraillé.
Ouais.
Et qui a tout qu'il a mangé.
Ouais, ouais, mais j'espère qu'il a grandement flambé. Il a passé des soirées dont il va se souvenir toute sa vie.
Il est décédé depuis, je crois, d'alcool. Et, enfin bon, sa vie.
D'accord.
Madame, enfin bon.
Il a pété un câble.
Ah, ouais. Ah non, mais ça l'a fait disjoncter. Ouais.
Bah oui, c'est sûr que. Oui,
il roulait avec des grosses bagnoles.
Bah oui, bien sûr. Ouais, tu pètes un câble, ouais.
Ouais.
Et voilà, mais c'est le piège, tu vois. Le piège du luxe, la compagnie, voilà. Mais être accompagné, moi je dis, faut accompagner ses pieds et les laisser sur terre déjà.
Oui, ouais. Absolument.
Tu peux les péter un câble pendant 6 mois, après, bon, tu reviens sur terre un peu.
Voilà. Voilà, donc jouez au loto et soyez lucide. Alors, on va revenir sur un acteur qui est derrière la caméra aussi.
Derrière et devant.
Et derrière et devant, c'est Elie Semoun, qui est aussi chanteur un petit peu.
Alors, je l'ai jamais entendu chanter.
Ah, mais moi, je.
D'accord.
Il l'a chanté.
Il l'a chanté. Il chante bien ?
C'est léger.
Ouh là là, t'es pas convaincu.
C'est léger.
Elie Semoun, acteur, scénariste, réalisateur français. Il est né le 16 octobre 1963 à Antony, dans les Hauts-de-Seine, ce qui nous fait un jeune homme de 60 ans. Elie Semoun, c'est 38 années de carrière, 75 films et séries tournées, 2 prix. Ah, et quel prix ! Il s'est chopé un Gérard du cinéma, quand même.
D'accord.
Il a été en 2006 le lauréat du Gérard du cinéma de la plus mauvaise tentative d'un comique dans un rôle dramatique dans Aux abois.
D'accord.
Il s'est fait descendre en flammes. Et en 2006, au Energy Cine Awards, il a eu un prix pour son doublage dans L'Âge de glace 2.
Ah oui, c'est vrai. Exact.
Voilà, ouais, ça c'est un vrai prix.
Des doublures, oui.
Alors au niveau de ses films, il a commencé en 1986 dans un court-métrage qui s'appelle Poussière d'étoiles. 10 ans plus tard, en 1996, on le voit dans le film de Serge Corbert avec Anémone et Annie Girardot dans Les Bidochons. Toujours en 1996, alors ça c'est un film que j'ai adoré, c'est un film de Bernie Bonvoisin avec Victor Lanoux, Patrick Bouchité, Les démons de Jésus. Grand film. Si un jour vous avez l'occasion de vous poser devant, je vous conseille de regarder ce film-là. Une belle leçon de vie. En 2003, on le verra jouer dans People Jet 2 de Fabien Onteniente avec José Garcia et Ornella Muti. En 2004, on le retrouvera dans le film Is No Good de Patrick Braudet avec Michael Youn et Jacques Villeray. En 2005, il rentrera dans la série Kaamelott.
Ah oui ?
Il est dans Kaamelott, dans la saison 1, et 2 et 4. En 2008, on le verra dans Astérix aux Jeux Olympiques de Thomas Langman avec Gérard Depardieu et Alain Delon. En 2011, eh bien c'est le début du Cubu, c'est l'élève de Cubu, de Philippe de Chauvron, avec Vincent Claude et Marc de Chauvron. En 2014, on le verra dans Qu'est-ce qu'on a fait au banlieue de Philippe de Chauvron, avec Christian Clavier et Chantal Lobby. En 2017, on le verra dans Neuilly sa mère de Gabriel Julien, La Ferrière, avec Denis Podalides et Samy Seguir. En 2019, on le verra dans Du Cubu 3. Par contre, là, c'est lui qui le réalise, hein, Elie Semoun, avec Mathis Cross et Émilie Cran. Et en 2021, il tournera aussi également, et il sera aussi devant la caméra, dans Du Cubu Président.
Alors, moi, je l'avais découvert, Elie Semoun, aussi en duo avec Dieudonné pour des sketchs.
Sketch qui était d'enfer.
90, 92, c'était une période où les deux faisaient chemin. Bon, depuis, ils se sont séparés, évidemment, pour des gestions financières, mais apparemment, problème de gestion financière.
Oui, c'est vrai, il s'est fait allumer Dieudonné avec ça. Ouais.
Il a dit, il avait une mauvaise gestion.
T'as oublié la petite enveloppe.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Mais c'était bon, tous les deux.
Oui, absolument, ça marchait bien.
Et en plus, c'était deux amis, ils avaient grandi un petit peu ensemble, apparemment dans le même quartier.
Ouais, ça marchait pas trop mal.
Oui. Et puis, ils étaient une bonne critique de la société contemporaine. Et voilà, bon, je trouve ça assez dommage, hein, mais c'était deux très bons comiques. Hein. Tu vois, c'était la période où on retrouvait aussi Les Inconnus.
Oui.
Tu vois, c'est la même époque. Et après, Elie Semoun, il a fait des sketchs avec Dubosc.
Oui, absolument.
C'était les petites annonces.
Oui, c'est vrai, avec le téléphone là.
C'était les petites... Je crois que ça s'appelait comme ça, les petites annonces, il me semble. Et t'avais du boss que tu reconnais pas, parce qu'à chaque fois il était grimé, tu sais, il était hyper bien maquillé des fois, alors quand il apparaissait en femme, tu le reconnaissais vraiment pas. Et c'était quand même pas mal.
Ouais.
Elise Moon.
D'où viens-tu, que fais-tu ?
D'où viens-tu, que fais-tu ?
On sait ce qu'il fait, mais bon.
Passionnée de littérature et de poésie, Elise Moon a déjà écrit à l'âge de 17 ans 2 pièces de théâtre ainsi que 2 recueils de poèmes. Non mais quand même, hein, tu savais pas ça.
Non.
Qui s'appelle Le Poémoir et la Plaisantriste. Attiré par les scènes, il rejoint la troupe de Roger Louret et y rencontre Muriel Robin avec qui il se produira sur les planches pour les Baladins en Agenais. Après un rôle récurrent de coursier en rollers dans le sitcom Vivement Lundi en 88, il fait ses débuts d'humoriste aux côtés de Dieudonné en 90. Triomphant, splendide, au Casino de Paris et au Palais des Glaces avec le spectacle Élie et Dieudonné en garde à vue. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ils avaient fait des gros spectacles hein, en 96. Ce duo explosif est des plus médiatisés. Mais à la suite de quelques divergences, les deux amis à l'affiche du Clone en 97 se séparent.
Ils ont des problèmes financiers. Ouais.
Seul, Elise Moon remonte sur scène dans Elise Moon, son premier one-man show, et réitère le succès de ses petites annonces dont tu as paru en vidéo avec son nouveau complice Franck Dubosc. Entre-temps, il tente une carrière au cinéma faisant face aux Trois Frères en 95 et au Bidochon en 96. Bernie Bonvoisin le prend sous son aile pour 2 longs métrages Made in Argot, donc Les Démons de Jésus en 96 et Les Grandes Bouches en 98, où il campe une petite frappe façon Joe Pesci dans Les Affranchis. C'est vrai, j'avais oublié ça. Il enchaîne alors les comédies populaires, comme dans Tout doit disparaître, Charity Business et Les Parasites. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Après une première expérience internationale aux côtés de Burt Reynolds dans Stringers en 99, Elise Moon se contente de petits rôles par amitié pour Pratik Braoudé dans Deuxième Vie, pour Laurent Baffy dans Les Clés de Bagnole, pour Maurice Barthélémy dans Casa Blanca Driver et Michel Muller dans La vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre. Il se prête également au jeu du doublage, donnant la voix pour les films d'animation, comme L'Âge de Glace en 2001, Pollux, Le Manège Enchanté en 2005, et Robot. En 2005, Philippe Collin et Anne Vilasec exploitent ses talents dramatiques pour Aux Abois. C'est là qu'il va choper un Gérard, hein, entre parenthèses. Hein. L'adaptation du roman homonyme de Tristan Bernard et Riviera. Mais le comédien a déjà d'autres envies de musique. Il sort un album de variété française en 2007, qui s'appelle Sur un fil, et de scène son spectacle donc Merki en 2008 est un triomphe. Hormis de brèves apparitions dans Astérix aux Jeux Olympiques et 15 ans et demi, il faut attendre 2009 pour retrouver Elise Moon en tête d'affiche d'un long métrage, en l'occurrence l'adaptation ciné des aventures de Cyprien, son personnage fétiche de geek, amateur de blonde à forte poitrine. Après de courtes apparitions dans Neuilly sa mère en 2009 et dans Banc Public, Versailles Rive Droite en 2009 aussi, Elise Moon participe de nouveau à des doublages donc de films d'animation avec Allez Raconte et Samy 2. En 2011, il se glisse dans la peau de l'instituteur Latouche, donc dans Les Lèvres du Cobu, d'après la bande dessinée de Gaudi et Zidrou. La comédie de Philippe de Chauvron est un succès avec 1,4 million d'entrées, au point que le réalisateur et le comédien se retrouvent l'année suivante pour une suite intitulée donc Les Vacances de Cobu, qui rassemble un peu plus d'un million de spectateurs. Tout en multipliant les apparitions dans les comédies populaires, donc comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les Francis... ou Neuilly sa mère, le doudou, ou encore 8 rues de l'humanité, il reste fidèle à la saga du Cobu dont il est la tête d'affiche et passe même derrière la caméra pour le 3e et 4e volet sortis respectivement en 2020 et 2022. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne.
Voilà, bon courage.
Voilà, on lui souhaite du succès.
Oui, absolument. Ouais. Et là, on l'écoute évidemment en chanson.
C'est sur le fil.
Oui, alors c'est Carte Postale. L'album de 2003. Et
d'accord.
Et donc il a une voix très, très légère, très, très sympathique. Donc à la fois on le retrouve au cinéma et en chanson. Donc vous avez le choix, hein, forcément.
Ah oui.
Pour
multicarte,
vous faire plaisir,
voilà. Bon, hein.
Il a peut-être gagné au loto, on ne sait pas.
Ouais. Parce qu'il pourra se venger de Dieudonné.
Oui, absolument, voilà. Merci Pascal pour cette nouvelle session cinéma Entracte, l'émission qui donne envie d'aller au cinéma et de gagner l'auto en tout cas. D'ailleurs, je vais aller faire mon petit ticket.
Ton ticket, bien sûr.
C'est ton jamais. Je ne changerai rien.
Oui, voilà.
Allez, je vous laisse le mot de la fin, Pascal.
Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air. Eh bien, venez au ciné. Venez découvrir tout ce qu'on a à vous faire découvrir. De toute façon, le temps, il va être horrible. Donc, ce sera un temps de cinéma.
Il fera bon.
Donc, je vous attends très nombreux. Il fera bon, mais il va flotter. Hein. Ça va être la fête à la grenouille. Donc, voilà, je vous attends nombreux. Très bonne semaine à tous, à très bientôt.